revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 5, année 2016, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, on va innover, tu vas nous parler du sommaire.
Oui, un classique, hein, avec des petites choses nouvelles comme l'abus de position de propriété intellectuelle, pardon. Le Parlement européen et un nouveau grand traité, on les adore. Une informatique plus éthique, l'Open Source School qui vient d'être lancé. Le partenariat Microsoft Éducation Nationale. Petit texte sur les iPhones ordinateurs prison. Et pour finir, le registre gouvernemental des lobbyistes qu'on aime bien.
CIO Online, édito, l'abus de propriété intellectuelle nuit à la propriété intellectuelle. Un article qui est une tribune de Bertrand Lemaire, hein, qui est le rédacteur en chef de ce magazine. Donc un CIO, c'est un patron, quoi. Hein.
Bah carrément, c'est le top, juste en dessous du CIO, Chief Information Officer, Chief Executive Officer. Et donc, il est supposé parler de l'informatique en connaissance de cause.
Et c'est un site, au moins, et je suppose qu'il doit y avoir un magazine derrière, je ne connais pas bien, mais qui s'adresse aux patrons d'entreprise, donc c'est quand même intéressant en termes de contexte, par rapport à ce que dit l'édito qui suit.
Oui, parce que c'est assez bizarre, hein, de la part d'une boîte plutôt orientée patron, justement, de voir ce genre de propos tenus. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. On encense le dépôt des brevets, de propriété intellectuelle et autres. Et puis là, bah, ils prennent un peu le contre-pied en disant, bah, les gars, on en a peut-être un peu abusé. En fait, ça tue l'innovation, ça pose des problèmes de concurrence. Il y a beaucoup de bordel là-dedans. Il y a aussi beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on fait pour récupérer de l'argent quand quelqu'un utilise notre propre solution. Ben voilà, ça pose beaucoup de soucis et ben, ça fluidifie pas le marché. Et donc, ça pose, c'est pas bon pour l'économie.
Alors je sais pas pour vous, mais moi je le comprends comme un rebond sur un article dont on avait déjà parlé il y a quelques temps, qui parlait de la manière dont Oracle avait d'aller voir ses clients et de leur demander, comme c'est indiqué dans leur contrat, de faire un audit de l'utilisation des logiciels d'Oracle, et qui en fait étaient des audits super lourds, super coûteux, qui allaient en profondeur, qui allaient bien au-delà de l'usage réel de la base de données Oracle. Et je me demande si c'est pas une réponse, quelque part, une continuation.
Si, parce qu'il en parle pas mal, et notamment il pointe sur le fait que cet audit, non seulement il est très lourd, mais qu'en plus de ça il est très obscur, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont faire une analyse, ils mettent les doigts dans tous les secrets d'une entreprise, et ensuite ils donnent un chiffre sans vraiment justifier, sans qu'on puisse négocier, et que du coup c'est quand même super problématique quand on veut maîtriser son affaire. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il parle de logiciel libre, hein, puisqu'il dit en gros, on n'est pas là pour dire qu'il faut pirater le logiciel, et qu'effectivement quand on a un logiciel propriétaire et qu'on paye pas la licence, bah effectivement on est hors la loi, d'autant plus qu'il cite le logiciel libre, il y a très souvent des alternatives, il dit qu'elles sont pas toujours à niveau, ce qui est vrai, il y a certains logiciels libres très développés, tout à fait à niveau, et d'autres qui sont un petit peu moins développés, mais dit en général il y a des alternatives, donc effectivement si on pirate du propriétaire, on est dedans et c'est normal qu'on se fasse aligner, mais voilà, il parle vraiment de cette question de ce délire, que je sais Manu, toi c'est un sujet de prédilection, quelle peut nous amener cette question de la propriété intellectuelle. Sur cette question, moi ça me fait penser, ça n'est absolument pas dans l'article, mais on a beaucoup parlé depuis quelques temps du livre de Piketty, Le Capital au 21e siècle, et Piketty a fait des calculs en disant que on est arrivé sur des ratios entre capital et PIB qui sont au niveau de ceux de 1910 et que la rémunération du capital est plus importante que l'augmentation de la productivité, ce genre de choses. Et que donc du coup la part du capital est de plus en plus importante. Et moi ça m'a fait penser à cette question de la propriété intellectuelle qui se répand partout. C'est dès lors qu'on a du capital qui enfle par rapport à l'activité réelle, il faut que ce capital puisse se placer quelque part, et finalement ces nouveaux droits de propriété qui sont un moyen de prendre le pouvoir sur les gens, pour moi pourraient tout à fait être analysés comme un nouveau débouché pour ces capitaux et pour finalement enfermer encore plus les gens et l'économie et la société.
Des enclosures, hein. Qui est un autre sujet encore, hein, dont on a parlé, et je suis sûr on reparlera.
Le Monde.fr, le Parlement européen veut reprendre la main sur TISA, l'autre grand traité qui effraie. Un article de Maxime Vaudano.
Donc là, TISA, c'est les fameux traités transatlantiques ou de négociations commerciales. Le but, c'est d'essayer de se mettre d'accord, d'homogénéiser les pratiques.
Il parle de quoi, celui-là ?
De plein de choses, en fait. C'est tout ce qui est échanges commerciaux, en fait, sur les services.
Beaucoup de services, mais en soi, service, ça veut dire beaucoup de choses, finalement.
Voilà, c'est tout, en fait. Donc là, l'Europe aimerait bien remettre un peu la main là-dedans.
Enfin, le Parlement européen
aimerait bien regarder un peu ce qui se passe et remettre la main dedans pour voir vraiment qu'est-ce que ça engage et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, essayer de recadrer un peu tout ça parce qu'ils ont l'impression que ça leur échappe complètement.
On en parle dans la revue de presse parce que d'habitude on parle de logiciel libre et de ce qui touche l'April, mais c'est que tous ces grands traités, généralement, c'est des portes d'entrée pour mettre des blocages à droite et à gauche, pour rajouter des droits d'auteur, des droits de brevet, des choses qu'on n'aime pas, qui sont assez détestables. Et là, pour le coup, on s'inquiète parce que dans la suite de TAFTA, d'ACTA, toutes ces choses-là, clairement, on sent qu'on va encore se prendre un coup.
Voilà, donc les députés européens ont fait un certain nombre de propositions sur cet accord. Donc on va en, pas toutes les données, mais quelques-unes qui sont citées dans l'article. Supprimer du texte les clauses dites de cliquet ou statu quo qui visent à verrouiller toute libéralisation des services, empêchant de futurs gouvernements de faire marche arrière. Donc en gros, on a libéralisé, on peut pas revenir en arrière. Exclure les services audiovisuels du champ de l'accord. Hein, là, on sent notre exception culturelle.
les gros majors qui doivent être derrière encore.
c'est l'exception culturelle. Voilà, d'autres éléments. Et notamment, à la fin, protéger les données personnelles numériques. Alors que justement, les États-Unis, bah, eux, font beaucoup d'argent et sont très en pointe là-dessus. Donc, ils aimeraient bien mettre la main dessus. Et donc, ils disent, bah, en gros, on
c'est
rappelle
plus ou moins le cas, il me semble. Hein, mais justement, il y a des clauses qui font que l'Europe, on est en train un peu de reculer. On ne veut plus donner nos données personnelles aux États-Unis qui en font n'importe quoi.
Puis ils sont pris une grosse baffe aussi hein, avec le Safe Harbor là, qui a été coulé il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Donc, effectivement, bah, je pense qu'ils vont revenir par la petite porte avec TISA. Ouais.
Et les conclusions des députés, c'est de dire, et en gros, si on n'obtient pas ce qu'on veut, on peut faire un veto. Et on l'a déjà fait avec ACTA par le passé. Donc, on est cap. C'est vraiment très intéressant. Par rapport à tous ces accords-là, je suis en train de lire un bouquin de Stiglitz qui est prix quasi Nobel d'économie, puisqu'il n'y a pas de prix de vrai prix Nobel d'économie, qui a été un des conseillers de Clinton, donc c'est pas le premier gauchiste venu, hein, et qui en 2012 a écrit un bouquin qui s'appelle, il y en a écrit d'autres, mais qui s'appelle Le prix de l'inégalité, et revient sur la crise des subprimes de 2008, et il dit, mais de façon, mais c'est pas à demi-mot, c'est même pas explicite, c'est qu'en gros, à longueur de page, il explique que l'économie américaine, le pouvoir politique américain est complètement corrompu par 0,1% de la population, et que toute leur politique est tournée vers l'enrichissement de cette minorité. Quand on dit comme ça, on dit oui, bah, ça fait théorie du complot, mais c'est Stiglitz ce qu'il dit, hein, et il le dit, mais vraiment super, super brutalement et très, très clairement. Et du coup, on se rend compte que tous ces accords sont aussi des moyens pour ces gens-là de s'accaparer des nouveaux marchés, parce qu'il dit également qu'en Europe, même si on n'est pas super satisfait de notre situation, c'est quand même loin d'être aussi sérieux qu'aux États-Unis, et qu'effectivement, bah, on est un marché vachement juteux pour ces gens-là, parce qu'il y a encore plein de boulot pour eux à faire, et donc de l'intérêt de se mobiliser sur ce genre d'accord. Ouest France, il donne accès à une informatique plus éthique, à un article d'Anne-Emmanuelle Lambert.
Un article qui parle de Nicolas Barthaud, dont la photo est en chapeau du texte, donc une bonne tête, très sympathique a priori, et puis bah, on l'aime bien parce que bah, il présente les logiciels.
J'ai cru que tu allais dire une bonne tête de vainqueur, mais...
Non. Donc Nicolas Barthaud, donc, il se présente comme animateur numérique donc, du côté d'Alençon, et son but bah, c'est de présenter, de faire son petit tour du paysage, et de présenter ce que c'est l'informatique, comment ça marche, d'expliquer Linux, le libre en particulier, de bah, tous les problèmes de la fracture numérique aujourd'hui, que bah, tout le monde n'a pas accès à l'informatique ou ne la maîtrise pas, alors qu'on en a besoin de plus en plus partout. Mmh. Et donc voilà, donc c'est...
Il fait du reconditionnement, puisqu'il donne accès à des vieilles machines avec du logiciel libre. Il y a quelques assos, même pas mal d'assos qui font ça en France. Et c'est pas uniquement pour envoyer dans des pays étrangers où les gens sont pauvres. On en a aussi besoin chez nous. Donc c'est un de plus qui fait ça. Et donc bravo à lui. ZDNet France, lancement de l'Open Source School, un article de Thierry Noisette.
Alors ça c'est assez marrant, je vous conseille d'aller voir la vidéo, c'est un fail monumental en termes de communication.
Ah mince, j'ai pas regardé.
Non, mais faut vraiment aller regarder, parce que je sais pas qui c'est qui a pu pondre ce truc-là, mais c'est assez mythique.
C'est pas à l'April qu'on ferait des vidéos ratées.
Voilà. Non mais disons que ça s'adresse pour un geek, c'est très bien, il va se reconnaître, il y a tous les gros clichés du geek barbu en train de boire son café, enfin c'est assez énorme. Bon par contre en termes de communication, pour quelqu'un qui est pas du domaine, ça passe un peu à côté. Faudra voir ce que ça donne, c'est vrai que le contenu des écoles du libre comme ça.
Déjà, ouais.
Pour les écoles du libre, il n'y en a pas des masses. Il y a eu l'école 42 qui était censée fonctionner. Qui n'est pas vraiment libre, mais voilà. Donc, du coup, il faut voir ce que ça va donner. Les programmes ne sont pas encore complètement communiqués. Donc, on suivra ça avec attention. Ça peut
donner
des choses.
Il faut préciser que ça a été lancé par le CNLL, notamment, qui est en gros une association d'entreprises du libre. Et on se rappelle que dans la revue de presse, il y a quelques années déjà, régulièrement, ils disaient on manque de main-d'œuvre. Là, ils le rappellent, les entreprises du libre, c'est plus 10% par an sur le marché et qu'ils ont du mal à recruter. Et qu'en gros, ils considèrent que le système scolaire ne fait pas son boulot et ne leur fournit pas assez de compétences dans les technos libres. Du coup, ils créent leur propre école. Il va faire à la fois de la formation continue et de la formation initiale.
À suivre avec intérêt, on verra bien ce que ça donne.
L'Express.fr, partenariat entre Microsoft et l'éducation nationale, bug en vue, un article de Sandrine Chenel.
Alors, je propose qu'on aille assez vite parce que, mine de rien, c'est des redites de ce qu'on a déjà vu. Ouais. C'est un sujet important, hein. On est toujours aussi dégoûté que l'éducation nationale se soit fait accoster, aborder et récupérer par Microsoft pour seulement 13 millions d'euros. C'est rageant, mais là,
Là, ils évoquent la procédure qu'on a évoquée la semaine dernière, donc c'est juste, en gros, la suite, hein. Il n'y a rien de neuf dans cet article-là. En tout cas, ça passe dans l'Express qui a un peu plus de statut que ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, je sais plus où c'était passé, mais je crois que c'était pas sur quelque chose de très important, enfin en tout cas moins important qu'Express, donc c'est intéressant de voir que ça fait tache d'huile, et on attend avec impatience le résultat. RTS, l'iPhone d'Apple est un ordinateur prison, selon le père du logiciel libre, un article de Delphine Gendre.
Donc c'est Richard Stallman qui tient
en Suisse,
donc qui a fait une présentation là-bas, comme il en fait régulièrement, et donc il revient sur les problèmes que posent les iPhones, qui enferment complètement leur utilisateur, où on ne peut pas contrôler son informatique, on est contrôlé par elle. C'est un peu son gros diable, en fait, Apple.
Il y a de quoi.
Et en particulier, je pense qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine, mais il y a encore un bug Apple, le fameux erreur 53, que si vous faites réparer votre Apple chez un fournisseur non agréé, Apple est complètement bloqué, vous perdez toutes vos données, tous vos accès, et ça a été une décision unilatérale d'Apple, donc ça, c'est bien une preuve comme quoi ils font ce qu'ils veulent, même avec une machine que vous avez achetée, c'est pas vous qui la contrôlez.
Voilà, donc petit article, il est pas très très étoffé, il y a un petit encart sur le fait que Stallman fait ses conférences en chaussettes, donc voilà, je pense que
Y a pas que ça, je pense qu'on pourrait noter, mais bon.
Next Impact, le registre gouvernemental de lobbyistes prend forme, un article de Xavier Bern.
Alors, on en parle là aussi dans la revue de presse parce que on est souvent confronté à des lobbyistes d'entreprises, de grosses multinationales et de moins grosses, d'associations d'entreprises aussi, qui défendent en général leur bout de pain, les logiciels propriétaires, privateurs, leur bout de gras, effectivement, tu as raison. Et donc ces gens-là, ils passaient sous le radar dans beaucoup de cas. Le registre des lobbyistes, il nous plaît bien parce que on va les voir un peu plus de manière publique, on va voir les démarches qu'ils font auprès de nos députés.
Donc c'était une promesse d'Hollande qui a un peu tardé à venir.
On aime bien ça en France, les hautes autorités, donc il y aura une haute autorité de la transparence qui va être créée pour suivre ça, pour bien vérifier que tous les lobbyistes vont se déclarer. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui vont y aller.
Il faut voir ce que ça donne, parce que même s'il y a de la transparence, ça peut être aussi une forme d'acceptation du système. Et toujours dans mon bouquin de Stiglitz, qui me marque beaucoup, dit que je crois qu'il y a 3 lobbyistes pour chaque représentant, entre 3 et 5.
Ah, ils sont surchargés, c'est
donc
c'est
ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de moyens en face, de côté lobby. Et puis, la politique américaine est entièrement achetée par les donateurs pour les campagnes, ce genre de choses. Et donc, c'est très bien que ça se mette en place parce que ça fait mettre de la transparence, mais on peut avoir une sorte de corruption, de détournement du système en disant oui, c'est normal que tout le monde s'exprime.
Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ça sera transparent, ça peut être la justification. Non, c'est normal. Nous, on le fait en toute transparence.
À la base, ils n'aiment pas trop la transparence.
Mais voilà, ça tâche un peu quand même. On l'a vu avec l'industrie du tabac ou l'industrie pharmaceutique, ça donne des trucs un peu glauques quand même sur les bords. Mais bon, c'est vrai qu'ils peuvent se réfugier en disant non, mais nous, on est transparent, on est affiché, on est bien public. Et donc, il n'y a pas de magouille. Bon, il faut voir ce que ça donne dans les faits. Ça permettra peut-être quand même de signaler certains problèmes. Par exemple, Microsoft, de voir des personnes qui fréquentent un peu trop près ou qui sont amis avec, avec un tel
Alors,
ou un tel.
Alors, une des choses que dit l'article, c'est qu'a priori, l'Elysée sera hors scope.
Oui, c'est con si c'est le gars de l'Elysée qui a promis de mettre en place ce genre d'enregistre. Alors qu'à l'Elysée, il y a pas mal de décisions qui se prennent. Il y a des Bill Gates et autres du même genre qui se promènent dans ces allées, qui discutent avec le président et ça oriente pas mal de choses, les marchés publics notamment.
Ouais, moi je pense que c'est un outil et qu'il faut que derrière, il y ait des militants de tous bords et qui s'approprient ces choses-là. C'est-à-dire que c'est la façon dont on sera exploité, à mon avis, qui va faire la différence. C'est qu'effectivement, si on laisse le truc sans regarder, sans pointer, etc., ça fera pas grand-chose.
Non, ça peut aussi servir pour après-coup, par exemple, l'accord Microsoft Open Bar Defense ou l'éducation nationale, de passer après-coup, de regarder qui a signé l'accord et tout ça, et de retrouver qu'effectivement, c'était des lobbyistes de longue date et autres, et donc de pointer du doigt des collusions un peu illégales ou des choses comme ça.
Faudra voir ce que Regards Citoyens ont dit, notamment. C'est souvent eux qui travaillent sur ça, la transparence de nos gouvernants. Ils ont certainement des opinions, faut qu'on creuse un peu là-dessus.
Très bien, bon, on a fait le tour de cette revue de presse.
Eh bien, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.